France Inter.
Merci Guillaume, le prochain flash dans une heure à 17h sur France Inter.
La rencontre avec l'inconscient est une aventure. On vous emmène cette semaine avec Jean-Pierre Winter.
Bonjour à tous et à toutes. Je suis heureux de vous retrouver sur France Inter pour la première fois dans cette émission. Je le fais au nom d'une longue expérience de la pratique analytique, soit avec des enfants, soit avec des adultes. À travers de nombreux travaux et livres, j'ai essayé de transmettre mon expérience en me focalisant sur la pratique clinique, mais aussi sur mes centres d'intérêt, l'art, la politique, la pédagogie notamment. Et pour commencer, dans cette première émission, intéressons-nous aux rêves. Comme chacun d'entre nous en fait quotidiennement l'expérience, nos sommeils sont visités par nos rêves, qui sont quelquefois des cauchemars, à propos desquels il arrive que nous nous demandions quelle part de nous-mêmes a pu élaborer des scénarios aussi étranges. Et le plus souvent, en effet, nous éprouvons au réveil un sentiment d'étrangeté si fort parfois que nous préférons les oublier. Nous avons du mal à comprendre pourquoi telle personne que nous n'apprécions pas dans la vie quotidienne éveillée vient imposer sa présence dans un moment aussi intime. Pourquoi telle situation abracadabrante nous met en scène de façon tantôt à notre avantage, tantôt en nous ridiculisant. Quoi qu'il en soit, me souvenant de mon rêve, je ne peux éviter de me demander qui est l'auteur de ce qui me semble totalement incompréhensible, voire délirant. Est-il possible que, comme dans un roman policier, je sois à la fois l'assassin qu'on recherche et celui qui mène l'enquête ? Est-ce bien moi qui m'autorise la nuit à ces jeux érotiques auxquels je n'oserais même pas penser à l'état de veille ? Tout s'insurge en moi à la seule pensée que le type bien que je m'efforce d'être dans la vie courante puisse, la nuit venue, être aussi immoral. Ce n'est pas de ma faute, suis-je tenté de me dire. Alors, à qui la faute ? À mon inconscient, suis-je tenté de répondre. Mais l'inconscient, est-ce un petit lutin qui profite de mon inattention pour se jouer de mes désirs ? Un diable, comme on aurait dit au Moyen-Âge ? Ou un dieu, comme le pensent depuis toujours les croyants ? Ce qui est indiscutable, c'est que c'est bien moi qui rêve. Et j'aimerais bien comprendre où je veux en venir en faisant mine d'ignorer que je ne suis pas pour rien dans ce qui m'arrive, dans la vie active, comme dans mes songes. Mes rêves parlent une langue que je ne comprends pas, comme si je voulais brouiller les pistes qui pourraient me mener à mes désirs les plus inavouables. Et tout ça pourquoi ? Pour me persuader de mon innocence, de mon irresponsabilité. Sérieuse question qui a fait réfléchir quelques penseurs, et non des moindres. Après avoir partagé avec vous ces réflexions sur cette question de la responsabilité, je répondrai aux questions que m'ont adressées celles et ceux qui ont déjà écouté ce podcast, disponible sur toutes les plateformes d'écoute.
L'inconscient, avec Jean-Pierre Winter, sur France Inter.
Ma conviction, après des années d'études et de pratiques de la psychanalyse, est qu'au fond, la découverte freudienne est solidaire de la question de la responsabilité. Je dirais même que la psychanalyse en est une extension, soit exactement le contraire de ce qu'a pensé par exemple la grande philosophe Hannah Arendt, qui s'est longuement penchée sur la question de la responsabilité. La psychanalyse donne à cette question une dimension qu'elle n'avait pas jusque-là. En effet, jusqu'à Freud, un certain nombre de manifestations, comme celles qu'il a épinglées, c'est-à-dire le rêve, l'acte manqué, le lapsus ou le symptôme, étaient considérées soit comme des défaillances physiologiques, soit mêlées à ce qu'on pourrait appeler le non-sens, ou porteurs d'un sens mystique, voire tout simplement énigmatique ou mystérieux. Freud et à sa suite la plupart des psychanalystes, répondra non pas en donnant un sens a priori, et c'est peut-être là que réside la principale erreur d'Hannah Arendt, mais en montrant que tout ce qui est apparemment hors sens obéit à une logique propre à chacun et partiellement collective. Il se fait fort, à propos du rêve par exemple, de mettre en évidence la suite des pensées qui préside à un certain nombre de conduites symptomatiques ou de faits qui jusque-là étaient rejetés de la vie psychique des gens. Ces pensées que je refoule parce qu'elles pourraient porter atteinte à mon image ou parce qu'elles pourraient nuire à ceux que je veux protéger par intérêt ou par amour. Il n'en a pas toujours été ainsi, bien que, depuis fort longtemps, et dans toutes les civilisations, les hommes n'ignoraient pas l'importance de leurs rêves et le rôle, plus ou moins heureux, qu'ils pouvaient jouer dans leur vie diurne. Mais longtemps, ils les ont considérés comme des messages envoyés par leur Dieu, messages qui, une fois décryptés, avaient le pouvoir d'orienter leur avenir. Quelques penseurs, toutefois, se faisaient une idée assez précise du contenu de ces productions nocturnes et, du coup, des motifs pour lesquels ils s'énonçaient de façon codée ou imagée. Prenons par exemple le cas de notre bien mal connu Œdipe. Je vais vous citer le texte de Sophocle dans sa tragédie Œdipe roi. Au moment où Œdipe, qui a tué son père, s'apprête à coucher avec sa mère Jocaste, face à ses scrupules, elle lui dit « Que sert à l'homme de craindre, puisqu'il est le jouet de la fortune et qu'il ne peut lire dans l'avenir ? Le mieux est de vivre au hasard et comme on peut. Tu crains d'entrer dans la couche de ta mère. Ces imaginations troublent quelquefois nos rêves. Le moyen de vivre tranquille est de mépriser ces vaines terreurs. » Au passage, notons qu'on n'a pas attendu Freud pour faire de tout homme un petit Œdipe craintif. Le grand Platon lui-même s'en était avisé dans son ouvrage « La République ». Il disait « Il s'agit de ces désirs que le temps du sommeil voit s'éveiller lorsque l'autre part de l'âme est endormie, celle de la raison civilisée qui exerce l'autorité sur la première. Lorsque le monde animal, sauvage, a mangé ou bu à satiété, qu'il s'ébroue, repousse le sommeil, veut bouger et satisfaire ses humeurs. Comme tu le sais, ce monde animal a toutes les audaces. Sans plus d'entrave ni de gêne qui lui viendrait de la pudeur ou de la maîtrise de soi, il cherchera en imagination l'union avec sa mère ou un individu quelconque, mortel, dieu ou bête. La souillure du meurtre ne l'arrêtera pas davantage et il n'est rien qu'il hésite à dévorer. En somme, aucune folie ne lui restera étrangère, aucune horreur. » Voyons aussi l'histoire de Jacob et Joseph dans la Genèse, le premier livre de la Bible. On ne peut pas dire que ces deux illustres personnages soient indemnes de leur vie intérieure. Leur histoire est celle de leur vie psychique, du comment ils sont commandés par leurs rêves, plus ou moins transgressifs, et par le fait, pour Jacob ou pour Joseph, d'interpréter leurs rêves et avant même de les interpréter, de les raconter avec une certaine candeur. Joseph, que Freud appelait avec humour « mon confrère en oniromancie », sera brutalisé et vendu par ses frères pour avoir raconté ses rêves de grandeur et inversement, nommé vice-roi d'Égypte pour avoir su interpréter les rêves du pharaon. Qu'est-ce que tout ça signifie du point de vue qui nous préoccupe ? Que nous sommes responsables de tout ce que nous disons, parce que contrairement à l'adage, les paroles restent tandis que les écrits s'effacent. Par conséquent, la question sera de savoir si je suis responsable du récit de mes rêves. Pour les actes manqués, nous sommes tous, plus ou moins persuadés, que nous y sommes pour quelque chose. Mais on se tient généralement exempt de toute responsabilité pour ce qui est des rêves. Pourtant, vous avez beau ne pas vous sentir responsable de vos rêves, lapsus, voire symptômes, ceux en présence de qui vous les racontez, ou en présence de qui vous les vivez, vous en tiennent pour responsable, voire coupable. Je ne suis pas responsable de mon symptôme, mais je tiens que l'autre, lui, est responsable des siens. D'où, par exemple, les expressions comme « prends sur toi » ou « si tu te donnais des coups de pied aux fesses, ça irait mieux ». Le symptôme de l'autre serait comme une défaillance de la volonté dont il serait responsable. Par contre, quand il s'agit de soi, on ne manque jamais de se trouver des excuses souvent très alambiquées.
France Inter, l'inconscient, cette semaine avec Jean-Pierre Winter.
Si Anna Arendt, par exemple, s'était donné un peu plus de mal pour comprendre de quoi parle Freud, elle aurait trouvé dans un texte de 1925, intitulé « Quelques compléments à l'ensemble de l'interprétation des rêves », cette question qu'il pose frontalement. Il écrit « Devons-nous assumer la responsabilité du contenu de nos rêves ?» Il y répond qu'il va de soi que l'on doit se tenir pour responsable des notions malignes de ses rêves. Et il évoque à cette occasion l'objection simpliste qu'on entend assez souvent, selon laquelle le sujet, comme le dit Hannah Arendt, mais sans avoir approfondi si c'était justifié ou pas, peut dire « ce n'est pas moi, c'est mon inconscient ». Si j'avance pour ma défense que ce qui en moi est inconnu, est inconscient, n'est pas moi, alors qui est moi ? La responsabilité s'imposera comme corrélative de la notion d'inconscient. Une analyse consistera à orienter avec douceur et tact et précaution le sujet vers la prise en compte de sa responsabilité eu égard à ce qu'il dit, à ce qu'il se refuse à dire et aussi eu égard à comment il le dit. Ça va même plus loin parce que Freud parle à un moment donné de choix de la névrose. A-t-on bien réfléchi à ce que ça voulait dire quant à la question de la responsabilité ? Cela signifie que si vous êtes plutôt obsessionnel, ou plutôt hystérique, ou plutôt phobique, c'est un choix. Dolto ira jusqu'à dire à un adolescent qui se plaignait de ses parents qu'il n'avait qu'à ne pas naître dans cette famille. Bien évidemment, ça n'a pas de sens rationnel, mais ça dit quelque chose sur le fait que passer son temps à se plaindre est un choix. Avec la notion de choix inconscient, nous retombons sur nos pieds. Un choix inconscient reste quand même un choix. Évidemment, ça pose la question de savoir comment on peut avoir une compréhension, au-delà même des termes employés par Freud, de ce que peut vouloir dire être responsable de ses rêves, de son symptôme ou même de sa névrose. Nous pouvons appréhender la question à partir de notre vie quotidienne, que nous soyons en analyse ou pas. Ainsi, par exemple, dans le fait que raconter un rêve à un proche n'est pas dénué de conséquences. Vous pouvez partir allègrement au travail le matin, après avoir entendu votre conjoint vous raconter son rêve de la nuit. Sans faire nécessairement le lien, vous vous posez la question toute la journée de savoir pourquoi vous êtes angoissé, alors que rien dans votre activité du jour ne justifie cette anxiété. Si vous y réfléchissez un petit peu, ou que vous en parlez en analyse, vous pouvez entendre dans le rêve qui vous a été raconté une adresse directe qui vous concernait. C'est pourquoi Freud peut parler de malignité du rêve dont on est responsable. Ça peut être des vœux de mort, un désir d'enfant, une vengeance, l'aveu d'un adultère ou d'un désir pour telle ou telle personne. En racontant votre rêve, vous envoyez un message inconscient qui sera déchiffré par l'inconscient de l'autre. Ferenczi, un des premiers élèves de Freud, dit d'ailleurs que les seuls rêves qui sont intéressants sont ceux qui nous sont adressés. J'en veux pour preuve que chaque fois que des metteurs en scène au théâtre ou au cinéma ont essayé de mettre en scène les rêves, par exemple ceux de Kafka, pour en faire un spectacle, c'était inaudible. Ces rêves ne nous sont pas destinés. Ils ne sont pas produits pour être mis en scène pour un large public. Quand Kafka, par exemple, a envie que ce soit pour un public anonyme, il transforme son rêve en une nouvelle ou un roman. Il ne raconte pas son rêve. Ne dit-on pas d'ailleurs, peut-être fautivement, rêver à quelqu'un, comme on dit parler à quelqu'un. Parlons maintenant de ce que Pierre, un jeune collègue, était venu un jour me raconter. Pierre et Marie s'étaient séparés depuis quelques mois d'un commun accord. Ils ne se voyaient plus beaucoup, mais il leur arrivait encore de se parler, notamment de leur enfant. Tous les deux avaient passé de longues années sur des divans d'analystes. Un jour, sans prévenir, Marie débarque chez Pierre à l'heure du café. Et après quelques échanges de banalités, Marie raconte à Pierre son rêve de la nuit précédente. Son rêve paraissait anodin. Il y était juste question d'un voyage à l'étranger qui se terminait mal. L'un comme l'autre se garde bien de l'interpréter. Et Marie s'en va aussi soudainement qu'elle est venue. Tout en pensant au travail qui l'attend dans l'après-midi, Pierre vaque à ses occupations. Mais son décodeur inconscient de rêve s'est mis en marche et subitement, il comprend que Marie est venue lui annoncer qu'elle envisageait de se suicider. Tout à fait cessante, il se précipite chez elle et en effet, elle venait d'avaler une dose létale de médicaments. En ce sens, on est au moins responsable du récit de son rêve et de son interprétation. Un texte talmudique dit qu'un rêve qu'on n'interprète pas est comme une lettre non lue. C'est toujours un choix de ne pas ouvrir une lettre reçue, mais ça n'abolit pas l'existence de la dite lettre. L'enjeu est donc éthique. Il est rapporté dans un autre texte la chose suivante. Une fois, j'ai fait un rêve et je suis allé consulter de nombreux interprètes. Leurs interprétations étaient toutes différentes et toutes se sont révélées exactes. J'avais rêvé que les poutres de ma maison s'effondraient. Un maître me dit « Tu vas avoir un fils qui vivra ». Et effectivement, j'ai mis au monde un superbe enfant. À quelque temps de là, je vis à nouveau ce rêve et je retournais voir le maître qui s'était absenté. J'en parlais donc à ses élèves. Ils me dirent « Ton mari va mourir ». Je me mis à hurler et à pleurer. Ce qui alerta le maître qui voulut savoir la cause de cette douleur. Les élèves lui dirent l'interprétation qu'il m'avait donnée. Sur quoi, très en colère, le maître dit « À cause de vos paroles, vous venez de condamner son mari. » En effet, l'accomplissement du rêve découle de l'interprétation qui en est donnée, comme cela a été dit à propos de Joseph. En analyse, c'est par la voie de l'association d'idées que le rêveur est appelé à produire son interprétation. Mais il est possible que l'analyste puisse proposer l'amorce d'un déchiffrage en écoutant le récit du rêve comme s'il s'agissait d'un rébus. Toutefois, puisque le rêve lui est adressé, l'interprétation sera toujours différente pour un même rêve, d'un analyste à un autre. On ne raconte jamais un même rêve à deux personnes différentes. Et c'est dans les variations du récit que s'entendra ce qui est destiné spécifiquement à chaque interlocuteur. Par conséquent, il n'y a pas de clé des songes. Chaque rêveur se fabrique son propre codage qui utilise toutes les ressources de la langue, de l'histoire, des règles de la rhétorique et de ce qu'il attribue de désir et de savoir à celui à qui il parle. Autrement dit, le rêve nous invite à un dialogue entre le « je » et le « moi ». J'appelle responsabilité l'acte d'accepter d'avoir ce dialogue, c'est-à-dire d'avoir cette capacité à entrer dans sa propre pensée pour dialoguer avec soi-même au point où on arrivera à une conclusion dont on sera réellement responsable pour l'avoir discuté. Dans ce dialogue silencieux avec soi-même ou en présence du psychanalyste, il y aura toujours un reste, un indicible, qu'on retrouvera chez Lacan quand il dit « Je dis toujours la vérité, pas toute, parce que les mots y manquent ». Formule qui me rappelle un patient qui avait entendu Lacan proférer ça et qui arrive à sa séance tout ému disant « J'aimerais bien vous dire la vérité, mais les mots manquent pour vous la dire ». Bien sûr qu'il les avait les mots, mais au bout du bout, il rencontrera en effet un indicible. Mais avant d'en arriver là, il faut prendre le risque de laisser ses pensées vagabonder. Le risque, car comme le dit Hannah Arendt, le premier, et pour autant que je sache, le seul qui ait parlé du penser comme d'un pathos, d'une épreuve qui fonce sur quelqu'un et que ce quelqu'un doive endurer, ce fut Platon, qui dit de l'étonnement qu'il est le commencement de la philosophie, sans bien sûr avoir en vue par là la simple surprise qui naît en nous quand nous rencontrons quelque chose d'étrange. C'est pourquoi je dis que interpréter ses rêves, c'est se donner une chance d'être surpris, étonné par l'inconscient. Hannah Arendt poursuit. Nous partons en voyage pour visiter des choses qui valent le détour. Bien souvent, c'est seulement dans le souvenir rétrospectif, quand l'impression ne nous presse plus, que les choses que nous avons vues deviennent tout à fait proches. Comme si elles révélaient alors pour la première fois leur sens, parce qu'elles ne sont plus présentes. Ce renversement des rapports et des relations, que le penser éloigne le proche, c'est-à-dire se retire du proche, et s'approche de ce qui est éloigné, voilà qui jette un éclairage décisif sur le séjour du penser. C'est pourquoi je pense que le décodage de mes rêves, tout en me surprenant, m'éloigne de moi et m'ouvre sur le monde. Accéder aux messages de mon inconscient me rend libre de les juger, de les soupeser et de m'en libérer s'ils ne me conviennent pas. En ce sens, nous pourrions dire que si Œdipe avait analysé son rêve, il n'aurait peut-être pas été obligé de se crever les yeux et de s'exiler. Qui sait ? Qu'est-ce que ça veut dire quant à la question de la volonté ? J'estime en général que je suis responsable de mes actes du fait de ma volonté. J'ai voulu, j'ai obtenu ou pas, mais là est ma responsabilité. Et si je suis au fait de ce qui a déterminé à mon insu ma décision ou mon engagement, je suis libre et ivre de liberté. Prendre le risque de penser sans se censurer, c'est en quelque sorte faire l'expérience d'une liberté intérieure qui m'ouvre les portes de ma liberté dans la vie collective. C'est pourquoi quand on sent monter le totalitarisme dans un pays, les atteintes à la liberté, il est de la responsabilité de ceux qui ont une pratique de l'inconscient, psychanalystes ou artistes, de lancer les signaux d'alerte qui permettront de ne pas se sentir exempté de toute action politique au nom de je ne sais quelle neutralité. La neutralité analytique n'est pas la neutralité suisse. Ce qui risque de me surprendre quand je prends au sérieux mes rêves, c'est que je ne suis pas là où je pensais être, car comme le disait Paul Valéry, plus proche de Freud qu'il ne le pensait, tantôt je pense, tantôt je suis, il y a là quelque chose de tout à fait vrai. Aphorisme ingénieux de la part du poète qui nous ouvre une nouvelle perspective quant à notre question. Dans cette alternance, à quel moment suis-je responsable ? Quand je pense, quand je rêve ou quand j'agis ?
France Inter présente son premier podcast interactif. L'inconscient, avec Jean-Pierre Winter.
Restez à l'écoute. Dans un instant, je répondrai à toutes vos questions, mais tout de suite, voici PJ Harvey sur France Inter. Dans l'inconscient sur France Inter, maintenant, c'est à vous. Je vous écoute.
Bonjour, c'est Adeline. Bonjour Jean-Pierre Winter, bonjour à tous. Et tout d'abord, un grand merci d'avoir imaginé, pensé et diffusé une émission telle que la vôtre que je suis assidûment. Voici donc ma question pour Jean-Pierre Winter. Peut-on être responsable de son déni et de ce que l'on dénie ?
Bonjour Adeline et merci pour votre question. C'est quoi un déni ? C'est un refus, généralement inconscient, d'une réalité que l'on juge, à tort ou à raison, inacceptable. Dans la mesure où je pense qu'on est responsable de ses rêves, on pourrait dire que n'importe quel rêve se présente sous la forme d'un déni, qui transforme une réalité jugée, donc difficile, en symbole qui la rend absolument dans un premier temps en tout cas, difficile à déchiffrer. Dénier, c'est refuser consciemment, à la différence du déni qui, lui, peut être inconscient. Le type même du déni inconscient, c'est par exemple le déni de grossesse. Pour une raison ou pour une autre, une femme refuse de reconnaître qu'elle est enceinte, et il s'ensuit un certain nombre de conséquences dont on peut se demander jusqu'à quel point elle est responsable de ce refus. Dénier, c'est juste s'opposer. C'est dire non, c'est pas le soleil que je vois, c'est la lune. C'est tout à fait différent. Voilà ce que je pouvais vous répondre.
Bonjour. Je voudrais d'abord vous remercier pour votre émission qui était très intéressante et vous poser la question suivante. Je voudrais savoir si on peut se constituer des souvenirs à partir de rêves faits pendant l'enfance. Et du coup, une fois adulte, comment faire le tri de ce qui relève du rêve ou du souvenir? Voilà, merci beaucoup, au revoir.
Hélène, merci pour votre question. Effectivement, quand on fait appel à nos souvenirs, il est difficile, voire même peut-être dans la plupart des cas impossible, de savoir si ce dont on pense qu'on s'en est souvenu est le souvenir d'un fantasme ou d'un rêve qu'on a eu, ou le souvenir d'une réalité. À vrai dire, peu importe. La responsabilité que nous avons, c'est de prendre en considération le souvenir sans se demander dans un premier temps si c'est le souvenir d'un rêve ou si c'est le souvenir d'une réalité passée, et de voir où nous conduit, en association avec les idées qui nous viennent, où nous conduit le récit de ce souvenir qui peut-être était un rêve enfoui depuis longtemps. L'inconscient est rusé, et quelquefois il nous présente des événements comme ayant eu lieu à un âge précoce, alors que cet événement a été remanié par d'autres événements qui lui ressemblent et qui se sont produits plus tard. C'est difficile de démêler parce que certains souvenirs sont juste des choses qui nous ont été rapportées, d'autres sont des choses qu'on croit avoir vécues et qui ont été déformées tout au long de l'histoire. Donc, je vous répondrai tout simplement que se poser ce genre de questions, finalement, ne nous permet pas d'avancer beaucoup dans la recherche de ce qui a été la vérité historique. Elle est peut-être quelquefois difficile à atteindre, et je pense que la meilleure des choses à faire, c'est de s'en tenir au récit lui-même.
Bonjour. Voilà, c'est une question pour Jean-Pierre Winter. Je me disais que c'était quand même un peu curieux que les gens se racontent leurs rêves alors qu'ils regardent leur côté absurde. Et aussi que c'est une des rares fois où l'on s'adresse à quelqu'un pour dire quelque chose qui n'a pas de sens. Et ma question était, qu'est-ce qu'on fait quand on fait ça? Et d'autre part, je pensais à la formule « ce n'est qu'un rêve » qui permet d'écarter bien sûr le contenu du rêve, qui a peut-être à voir avec la passion de l'ignorance et qui n'est pas toujours sans conséquences. Je pense par exemple, dans les exemples célèbres, à la belle Hélène qui, quand Paris s'approche d'elle, dit « ce n'est qu'un rêve » et chante ça dans l'opéra d'Offenbach. Et ce rêve, on le sait tous, va conduire à la guerre de Troie. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on raconte son rêve, quelque chose d'absurde à quelqu'un, et aussi, bien sûr, quand on écarte avec le « ce n'est qu'un rêve ». Merci de votre réponse, au revoir.
Merci Séverine pour votre question. La réponse est dans la question telle que vous la posez, avec cet exemple fameux de la belle Hélène. Raconter son rêve n'est pas sans conséquences, et quelquefois, ça a des conséquences dramatiques. Pourquoi raconte-t-on nos rêves, quelquefois en public, quelquefois en particulier à des intimes ou à des amis, alors que dans la vie quotidienne, on essaye d'être rationnel et de dire des choses pertinentes? C'est tout simplement que nous ne savons pas, au moment où nous racontons notre rêve, nous ne savons pas ce que nous racontons. Et nous espérons bien que celui qui va nous écouter n'en saura sur le moment pas plus. Il n'en reste pas moins que nous portons une lourde responsabilité, comme j'ai essayé de le montrer avec un exemple dans ma chronique, une lourde responsabilité quant aux conséquences du récit du rêve. Il y aurait d'autres exemples historiques fameux, mais je m'en tiendrai pour vous répondre à ce que vous évoquez en disant « ce n'est qu'un rêve » qui est effectivement une explication qui consiste à dire « je peux raconter mon rêve » puisque au fond, un rêve, ça n'a pas de sens, ça veut rien dire. « Ce n'est qu'un rêve », c'est par exemple ce qu'on dit quand, alors qu'on a réussi tous ses examens, on doit passer un examen supérieur et on rêve qu'on va le rater. On peut se réveiller en se disant « mais au fond, ce n'est qu'un rêve ». Ce faisant, on écarte complètement la question de savoir pourquoi on arrivait qu'on échouait, alors que de façon systématique, jusque-là, on réussissait tout ce qu'on avait entrepris.
Bonjour, Laurent. Merci pour votre émission très intéressante que j'apprécie beaucoup. Vous avez abordé la notion de responsabilité au-delà de celle du rêve. La notion de responsabilité au sens psychologique est un concept difficile à appréhender car j'ai du mal à le défaire de la notion de culpabilité. Je trouve une tendance culpabilisatrice et moralisatrice à dire qu'il faut arrêter de se plaindre de sa condition puisqu'on est responsable. On en est responsable. Par exemple, un ami me dit régulièrement que seuls les enfants sont des victimes, que les femmes victimes de violences portent leurs responsabilités. Alors, je peux entendre le fait qu'il peut exister une tendance inconsciente à se placer dans des situations dangereuses, mais je trouve que ce raisonnement fait porter une responsabilité injuste à des personnes qui déjà ont beaucoup de difficultés à être pénalement reconnues comme victimes. Que dites-vous de ce raisonnement? Y a-t-il une erreur de raisonnement? D'ailleurs, comment indiquer que ce n'est pas si simple? Que faut-il comprendre de l'auteur d'un tel raisonnement? Par ailleurs, un ami reconnaît une faute qu'il a commise en me la révélant, ça me provoque de la peine. Finalement, je me rends compte que toutes les conséquences sont dans mes mains pour décider de ce que je vais faire de cette révélation et de la peine que ça m'a provoquée. Lui, a priori, il ne subit aucune conséquence parce que je le pardonne. Mais a-t-il vraiment assumé sa responsabilité? Moi, je pense que non, mais moi, en revanche, oui. Alors, qui porte quelle responsabilité? Merci pour votre éclairage.
Merci, Laurent, pour non pas votre question, mais vos questions, qui sont nombreuses. Tout d'abord, effectivement, il y a lieu de distinguer responsabilité et culpabilité. Être responsable, étymologiquement, ça veut dire répondre de, être en mesure de répondre de. Donc être, par exemple, en mesure de répondre d'un acte qu'on a fait, d'une pensée qu'on a eue, d'un lien qu'on a fait ou qu'on a défait. Être coupable, c'est penser qu'il y a eu une faute. Or, dans ce que j'essaye d'avancer, il n'est pas question de faute, il est question de fait. La faute et le fait, c'est pas la même chose. Ce qui est de mon fait n'est pas forcément ce qui est de ma faute. En être responsable, c'est essayer d'explorer ce qui m'a conduit à produire tel ou tel acte, par exemple. Par ailleurs, effectivement, vous soulevez une question très importante qui est celle de la responsabilité des victimes. Dans ce que je dis quand j'avance que nous sommes responsables de nos rêves, voire de nos lapsus ou de nos actes manqués, je parle des faits psychiques. C'est-à-dire de ce qui dépend de moi, de ce que moi j'ai produit. Je ne suis pas responsable et je suis encore moins coupable de ce qui m'advient de l'extérieur. Par contre, là où ma responsabilité va s'exercer, c'est dans la manière dont je vais répondre à ce qui me vient de l'extérieur. Si vous voulez, c'est comme si nous disposions d'un certain nombre de cartes depuis notre naissance et qu'il nous revient de les distribuer ou de les mettre en circulation à notre manière. Et c'est cette manière qui est la nôtre dont nous portons la responsabilité et pas la culpabilité. Quant à votre ami qui vous a, en quelque sorte, donné du grain à moudre en vous révélant une faute qu'il avait commise, encore une fois, là on est dans le registre de la faute, et il vous rend, par votre silence, peut-être complice, en tout cas, il vous met dans l'embarras. Écoutez, avoir écouté, c'est une responsabilité. C'est d'ailleurs la responsabilité de tous les gens dont le métier est d'écouter. Ce n'est pas un métier sans risque. Dès qu'on prend la place de quelqu'un qui écoute, on devient responsable de notre écoute. Et donc, quand on est en proie à une révélation insupportable, dont s'est déchargé un ami plus ou moins proche, il y a lieu quelquefois de lui dire que nous ne sommes pas le gardien de ses secrets et que si il me raconte un fait inadmissible, je serai obligé de le révéler d'une manière ou d'une autre. Que je lui pardonne ou pas, importe peu, je n'ai pas à me faire le gardien des secrets inavouables. Bien sûr, dans le cas d'une psychanalyse, les secrets qui sont révélés le sont dans le cadre d'un travail. Il ne s'agit pas de confession. Ces faits sont révélés afin de permettre au sujet de reconnaître, au sujet, c'est-à-dire au patient, de reconnaître à quelle place il était dans les événements qui lui sont advenus et quelle a été sa réaction. La réaction relève de la responsabilité, mais pas de la culpabilité.
France Inter présente son premier podcast interactif. L'inconscient avec Jean-Pierre Winter.
Nous poursuivons nos échanges à l'écoute de vos questions après Dominique A, la fadeur et l'intensité sur France Inter.
La vie aurait le goût de l'eau d'une question jamais posée. La fadeur ancrée sous la peau, on éviterait l'intensité. Nous en sommes arrivés au point où peu de choses nous importent. Un ciel, un baiser, un refrain, qu'on ne fasse pas claquer la porte. On sent pourtant encore la peur qui se colle à nous-mêmes l'été. Condamné à l'intensité, à ce que saturent les couleurs. Il n'y aurait plus de douleur, ni de joie pour nous soulever. Les colères seraient dépassées. Rien qui n'éprouve plus le cœur. Nous en sommes arrivés au point où peu de choses nous importent. Un ciel, un baiser, un refrain, qu'on ne fasse pas claquer la porte. On sent pourtant encore la peur qui se colle à nous-mêmes l'été. Condamné à l'intensité, à ce que saturent les couleurs.
Et nous poursuivons nos échanges à l'écoute de vos questions.
Bonjour Monsieur Winter, je suis Alejandra et je voudrais vous poser une question concernant votre épisode sur les rêves. Sachant que les rêves relèvent de notre inconscient et si j'ai bien compris, la psychanalyse est une forme d'échange avec son inconscient par la parole,
À votre avis, est-ce que la psychanalyse est le seul moyen d'y parvenir? Je me demande ça en pensant aux nombreuses personnes qui n'ont pas accès à ce genre de thérapie. En tout cas, je vous remercie pour ce bel épisode.
Bonjour Alejandra, merci pour votre question. La psychanalyse n'est certainement pas le seul moyen pour parvenir à interroger notre responsabilité quant à nos rêves. D'autres voies sont praticables et pratiquées. La voie la plus intéressante peut-être, c'est celle de la création, celle de l'art. Que ce soit par l'écriture, par la peinture, par la sculpture, par la musique, c'est autant de façons d'atteindre les lieux inconscients de notre psychisme. De fait, beaucoup de gens n'ont pas accès directement à la psychanalyse et peuvent aussi emprunter des voies psychothérapeutiques tout à fait différentes, leur permettant d'accéder à leurs rêves. Et donc, à partir de là, de les prendre en compte ou de refuser de les prendre en compte. Je pense par exemple à des techniques comme le rêve éveillé ou d'autres plus précises qui ont été utilisées, comme certaines pratiques de transe par exemple, qui permettent d'accéder à des phénomènes inconscients jusque-là inexplorés. Et puis, il y a eu aussi des exemples de célèbres, comme pour certains poètes, d'accéder à leurs rêves et à leur inconscient en utilisant des substances, ce qui n'est évidemment pas recommandé. Merci pour votre question.
Bonjour et je merci beaucoup pour votre travail et votre podcast qui est vraiment très intéressant. Ma question est la suivante. Et ça fait des années que je consomme du cannabis de manière très régulière et ça fait donc des années que je ne rêve pas ou bien que je ne me rappelle pas de mes rêves plutôt parce que le cannabis peut avoir cet effet de ne pas se rappeler de ses rêves. Je voudrais donc savoir si ou bien quelle est l'incidence ou peut-être même le danger de ne pas se rappeler de ses rêves. Merci, au revoir.
Bonjour Alexandra et merci pour votre question. Ne pas se rappeler de ses rêves, c'est monnaie courante. Aucune raison d'invoquer pour ça l'usage du cannabis. C'est une forme de déni, justement. C'est une manière de refuser ce qui nous adviendrait d'un rêve si on se mettait à l'écouter. Est-ce que c'est dangereux? Difficile à dire. Une chose, en tout cas, me paraît certaine, c'est que à ne rien vouloir savoir de ses rêves, on passe à côté de soi. Car l'activité nocturne, l'activité onirique, est une grande partie de l'activité de nos désirs. Donc d'une certaine manière, votre question, je pourrais la transformer de cette façon-là. Y a-t-il un danger à passer sa vie à ignorer ses désirs ou son désir? L'histoire, la grande histoire, ou les histoires individuelles de chacun, montre que oui, il y a un certain danger. Par exemple, tel homme politique qui se retrouve, après avoir milité pendant des années dans un cadre assez autoritaire et en se mettant au service de telle ou telle autorité, se demande à la fin de sa vie, alors qu'il est lui-même jeté en prison, se demande « mais pourquoi finalement j'ai fait de la politique ?» Et réfléchissant, il s'aperçoit qu'il est passé à côté de ce qui avait été son désir, par exemple, s'occuper d'astronomie. L'exemple que je donne, c'est celui du Zéro et l'Infini, le célèbre livre de Arthur Kessler parlant d'un haut dignitaire du régime soviétique. Donc, d'une certaine façon, oui, il y a un certain danger, bien qu'on puisse constater que beaucoup de gens vivent à côté de leurs désirs sans que cela ait immédiatement des conséquences, mais qui sait? Je vous pose la question. Est-ce que cela n'a pas des conséquences sur les générations à venir?
Oui, bonjour, je m'appelle Charlotte. C'est une question pour Jean-Pierre Winter. Je me demandais, suite à l'écoute de l'émission sur les rêves et notre responsabilité, si je ne me souviens pas de mes rêves et que du coup je ne peux on peut me les raconter à moi-même. Eh bien, qu'en est-il ? Voilà, merci.
Bonjour Charlotte, et merci pour votre question. Si je ne peux pas me raconter mes rêves à moi-même, cela me laisse penser que peut-être il y a quelque chose sur moi-même que je préférerais ignorer. Et donc, dans ce contexte, on peut dire que je suis responsable de cette ignorance. D'ailleurs, cette ignorance, je dois dire, est largement partagée par chacun d'entre nous. Elle figure même au rang des passions, la passion de l'ignorance. Ceci étant, c'est pas parce qu'on ne raconte pas un rêve qu'il n'a pas eu lieu. Et quelquefois, sans qu'on ait pu se le raconter, il peut nous chagriner toute la journée, voire toute la semaine, ou chagriner notre entourage.
Voilà, ma question est pour Jean-Pierre Winter, et mon prénom est Caroline. Je voulais lui poser la question suivante. Est-ce que vous pensez que nous sommes responsables, non pas du contenu de nos rêves, et encore que vous avez l'air de dire qu'on peut être responsable de son inconscient, mais plutôt de ce que nous en faisons. Ce que nous en faisons, il y a plusieurs possibilités. Le plus souvent, comme vous l'avez dit, on oublie. Parfois, on peut analyser soi-même son rêve. C'est pas toujours facile, mais parfois on y arrive. Et enfin, on peut l'adresser à quelqu'un. Est-ce qu'une de ces attitudes serait, de votre point de vue, plus responsable qu'une autre ? Je vous remercie.
Bonjour Caroline, et merci pour votre question si précise. De fait, ce que nous faisons de nos rêves ou de notre inconscient relève de notre responsabilité. Mais ce que nous faisons de notre inconscient, c'est ce que notre inconscient fait de nous. Donc il y a là un aller-retour systématique entre l'inconscient et nous, et je pourrais dire que cela permet un dialogue constant entre, disons pour aller vite, entre je et moi. Il y a une façon effectivement peut-être plus indiquée, disons, de se responsabiliser par rapport à ses rêves. S'adresser à quelqu'un qui pourrait l'entendre, c'est risqué, comme j'ai essayé de le montrer, mais c'est quelquefois pertinent. Maintenant, on peut aussi, tout simplement, écrire ses rêves et essayer d'associer librement sur une feuille de papier pour voir où ça nous mène. Je ne pense pas qu'il y a une façon plus responsable qu'une autre. Je pense que notre seule responsabilité relève de l'ignorance du fait que nous avons un inconscient. Finalement, être responsable, je vais le dire autrement, être responsable de son inconscient ou être responsable des productions de son inconscient, c'est apprendre au long cours, sur le long chemin de la découverte, de la surprise de soi, c'est apprendre à aimer son inconscient. Parce qu'en fait, on se méfie de son inconscient. Et on a bien tort, car qui nous dit que cet inconscient ne nous veut que du mal ? Merci pour vos questions et merci à Jenab Sangaré à la technique, à Juliette L'Orphelin pour le choix de la musique, à Franck Olivard qui récolte vos questions et à Jérôme Boulet à la réalisation. La semaine prochaine, vous avez rendez-vous avec Laurie Lofer. D'ici là, vous pouvez d'ores et déjà écouter son podcast sur toutes les plateformes ou sur notre page internet L'Inconscient sur franceinter.fr et lui laisser des messages par note vocale ou sur notre répondeur au 01 56 40 64 04. Pour ma part, je vous donne rendez-vous le dimanche 22 octobre pour mon prochain épisode.